Avez-vous vu déjà, frères et sœurs, le blé en herbe? Le blé en herbe, voyez, un champ au printemps. Un champ de blé, disons plutôt un futur champ de blé, car il y a pour l'instant juste des petites pousses qui affleurent à la surface de la terre. Et vous vous promenez dans ce champ et vous posez votre main sur ces petites pousses, elles piquent, elles sont pleines d'une force qui vient de l'intérieur de la terre, qui est une promesse de vie, mais qui vient d'un événement terrible. Il a fallu pour que ces petites pousses nous piquent la main et sortent de la terre, qu'une graine meure. Et voilà bien, frères et sœurs, une image pour nous du royaume à venir. De ce royaume où les fidèles défunts sont transformés pour une vie nouvelle. Ils passent à travers cet événement tragique pour nous en tant qu'humains de la mort, mais ceci en vue de l'allégresse de la moisson du royaume éternel. Hier, nous fêtions tous les saints. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire commémoration de tous les fidèles défunts. Et ces deux fêtes sont comme interreliées, même si elles ne sont pas de la même importance, elles s'éclairent pourtant l'une l'autre. L'une, la Toussaint, contemple la moisson déjà levée. L'autre, scène d'aujourd'hui, contemple le blé en herbe. L'une fait donc goûter l'allégresse du royaume en son accomplissement, la sainteté, et l'autre nous y montre ce chemin pour marcher vers la sainteté, ce chemin qui passe par la mort corporelle. L'une, la Toussaint, était fêtée hier en blanc et l'autre aujourd'hui en violet. La première pour souligner le rayonnement de la sainteté qui nous attire vers la lumière du ciel et la seconde aujourd'hui pour nous rappeler que nous sommes dans un processus de conversion sur cet itinéraire. En bref, si la fête de Toussaint prend comme point de vue, on pourrait dire celui du ciel, la fête de tous les fidèles défunts aujourd'hui prend comme point de vue le nôtre, celui de la terre. Nous voulons, frères et sœurs, nous le savons, nous le croyons, nous voulons dans notre espérance chrétienne aller vers ce ciel, aller dans cette joie des anges qui nous attendent. Mais nous sommes conscients, dans l'Esprit Saint, que nous devons pour cela être transformés. Deux agents de transformation, frères et sœurs, deux agents de conversion. La prière d'intercession, d'une part, et l'Eucharistie, d'autre part. Premier agent de transformation, la prière d'intercession. Et c'est typiquement le sens de cette fête où nous faisons la commémoration de tous les fidèles défunts. Il y a d'ailleurs là, frères et sœurs, un fait qui traverse toutes les cultures. Le soin à prendre soin des morts, de nos disparus, de ces êtres chers qui nous ont quittés. En Égypte, par exemple, on connaît ces rites des momifications où on va, en vue de la vie à venir, Jésus-Christ n'est pas encore venu, mais on a cette intuition, et bien préparer celui qui s'en va, jusqu'à bâtir ces fameuses pyramides pour certains d'entre eux. Plus proche de nous, ici, géographiquement, chez les autochtones, il y a ce respect des ancêtres qui est marqué dans un coin de l'habitation, généralement, un espace est dévolu à la mémoire des disparus. Et plus proche encore, dans notre culture contemporaine, saviez-vous que Facebook offre à présent la possibilité d'utiliser les Facebook des disparus, des gens qui sont morts, comme un espace de mémoire virtuelle. On le voit à travers le temps, à travers l'espace, l'homme, la femme a besoin de prendre soin de ses morts, et l'Église catholique n'est pas en reste loin de là, car à chaque Eucharistie, tout au long de l'année, nous prions pour les défunts. Nous les présentons à la miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, ces défunts comptent sur nos prières, sur ce qu'on appelle nos pétitions. Nos pétitions, nous qui sommes vivants devant Dieu, vivants sur cette terre, et qui avons ce pouvoir d'intercession, c'est-à-dire d'attirer la grâce de la miséricorde sur ceux qui viennent de nous quitter. Et ceux-ci seront bien contents, car l'Écriture nous le dit aussi, bien, une fois mort, on s'en remet à la charité du peuple de Dieu, car nous-mêmes, nos actions sont faites et nous nous présentons avec confiance, certainement, devant le Père Céleste, mais contents aussi, eh bien, pour les manquements qui pourraient rester à l'issue de notre vie, sur les pétitions, sur la prière d'intercession de nos frères, de nos sœurs qui sont dans cette Église de la terre. Non contente de prier à chaque Eucharistie pour les défunts, l'Église a vu l'importance d'instituer une fête dédiée particulièrement à cette intention. Dans la lumière de la fête de Pentecôte, l'Église, dès le XIe siècle, a institué cette fête de la commémoration de tous les fidèles défunts. Premier agent d'une transformation, traverser la mort et aller à la vie véritable, l'intercession pour les défunts. Deuxième agent de transformation, nous l'avons dit, c'est l'Eucharistie. Si quelqu'un mange de ce pain, nous dit saint Jean, il vivra pour toujours. Et nous le savons, c'est écrit au fond de l'Église, l'Eucharistie, c'est ce panum angelicum, ce pain des anges. Ce pain, nous en faisons l'expérience, nous le goûtons. C'est un pain qui déjà nous met en marche dans l'autre monde, qui nous transforme du dedans, qui nous aimante vers le ciel, n'est-ce pas? Mais là, une question se pose. Seigneur, nous sommes certes nombreux ce soir, mais nombreux sont aussi les baptisés qui n'ont pas l'occasion de participer à l'Eucharistie, soit par oubli, soit par impossibilité. Pensez à ces endroits où l'Eucharistie ne peut pas être assurée par manque de prêtres, ou les gens qui n'ont pas cette chance de voir l'Eucharistie portée jusqu'à leur lit d'hôpital. Qu'en est-il de ces gens? Eh bien, nous continuons avec saint Jean, avec le verset suivant qui nous éclaire. « Ceci est ma chair pour la vie du monde, » y dit Jésus-Christ. « Ceci est ma chair pour la vie du monde. » Si l'Eucharistie, frères et sœurs, est un acte éminemment personnel, nous la recevons, l'Eucharistie, chacun personnellement. Chez les orthodoxes, on dit même le prénom de la personne pour qu'elle puisse recevoir personnellement ce don de Dieu. Si l'Eucharistie est éminemment personnelle, elle est également aussi éminemment relationnelle. C'est-à-dire que, comme nous le disait tout à l'heure Thomas Mine, nous rentrons dans le corps du Christ et attention de ne pas communier pour moi et moi seul. Chaque fois que je communie, je rentre en relation avec le corps du Christ. C'est le sens de ce geste de paix que nous vivons avant la communion. Mais allons-nous restreindre cette relation à ceux qui sont assis autour de nous dans cette Église? Oh, ce serait réduire le corps du Christ à une dimension bien étroite. Non, cette relation s'étend à tout le peuple des baptisés. Alors ces baptisés qui malheureusement ne peuvent pas recevoir le pain vivant, le pain descendu du ciel pour que nous montions avec lui au ciel, eh bien, c'est par la grâce de la communion des saints, la communion des saints que nous sommes, eh bien, qu'ils peuvent recevoir cet aliment du ciel. communion ce soir, peut-être, frères et sœurs, eh bien, en ayant cette double conscience de la communion des saints. Une double communion. Une communion entre nous, ceux de la terre, et une communion avec ceux qui sont déjà partis et qui attendent nos pétitions, notre intercession. Pendant cette communion, prenons le temps de contempler ce chant qui est dans le format du blé en herbe. Contemplons-le avec foi et avec la puissance de la miséricorde de Dieu. Nous pourrons déjà nous exclamer avec saint Paul, « Mort, où est ta victoire ?» Déjà nous voyons le blé qui se lève, le blé de la sainteté, et par la bonté de Jésus-Christ, nous voici, nous serons vivants, et nous le sommes. Amen.